Vous écoutez RTL.
Merci beaucoup Anne-Louise Naf. On vous retrouve à midi pour un nouveau point sur l'actualité. Mais nous plongeons avec délice dans la bonne heure et notre invité Stéphane De Grotte.
Bonjour.
Qui fait la cuisine à Kaboul. Il s'appelle Kaboul Kitchen. On va en parler dans un instant.
C'est pas lui qui fait la cuisine.
C'est pas lui.
Enfin, il la mange.
C'est un endroit merveilleux si vous voulez investir. Ouais. Allez-y. Alors, ce n'est pas parce que je vous présente d'abord un petit camarade. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes une bête de scène qu'on va s'interdire de parler des animaux. Et comme chaque vendredi, notre spécialiste Marc Giraud qui s'y colle.
Voilà, je vais parler de noms scientifiques, mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas se déchirer le cortex. Vous allez vous apercevoir que les chercheurs sont des gens très farfelus.
Ah, oui. Très bien. Parfait. La vérité des Belges, parce que vous êtes belge, la vérité des Belges, c'est VDB. Il va tenter de percer cette vérité après le journal de midi. Régis Maillot. Bonjour Régis. Parlez.
C'est bien essayé, la vérité des Belges. En fait, c'est VDB, la vie de Berne. Je rectifie.
Ah oui, c'est pas Thomas VDB.
Comment
non, non, c'est pas Thomas VDB.
C'est Van den Bosch.
Van den Boeynens, on avait. Non, alors, nous avions un ministre.
Van den Bosch, oui.
Van den Boeynens.
Ah, Van den Boeynens.
Enfin, n'essayez pas de noyer le poisson, vous allez en prendre plein la tête, comme d'habitude, Stéphane.
Ce n'était pas un poisson, c'était un ministre.
Vous êtes arrivé des aventures très particulières aujourd'hui.
Ah oui, je crains le pire. La cérémonie des Césars qui a lieu ce soir au menu du zapping des
Bonjour à tous. Bah oui, on se réécoutera quelques moments savoureux de l'an dernier de ces Césars. Et puis, puisqu'on est dans une journée de récompense, on ira récompenser également notre chaîne favorite IDF1. Ah. Depuis le temps qu'on en parle, on va essayer de les appeler aujourd'hui, Stéphane.
On va appeler Isabelle.
Ouais, moi je dis qu'on va essayer de faire ça. On va essayer d'appeler Isabelle en direct sur IDF1.
Si on arrive à la voir, c'est tellement.
S'il n'y a pas le fameux Marc au téléphone qui appelle tous les jours. On va tenter, on va voir.
Parfait. Alors, vous partez pour Kaboul. Et bien, nous, on voyagera également avec le test musical de Patrice Carmouze.
Bonjour.
Qui est consacré aux chansons qui nous emmènent dans les pays et les villes lointains.
Les pays et les villes lointains, c'est comme ça qu'on dit.
Oui, parce que le masculin l'emporte encore pour quelques semaines.
On peut dire les villes et les pays lointains, comme ça, ça réconcilie tout le monde.
Et un magnifique cadeau à la clé, parce que grâce à Vacances Bleues, vous jouez pour un séjour d'une semaine pour deux personnes en demi-pension au club Serre du Villard à Serre-Ponçon. Voilà, ce sont les Alpes du Sud. Et puis, alors, on va appeler au téléphone aussi la gagnante d'un jeu qui a eu lieu sur RTL pour aller assister à la cérémonie des Césars. Et puis, dernière chose, vous savez j'ai dit par erreur qu'il n'y avait qu'une dernière société qui faisait des bérets. Eh bien non, les autres sociétés disent, eh bien nous aussi, nous sommes là. Et donc, nous les appellerons pour
justement... Il y en a 30.
On appellera la société du béret français.
Voilà, la société du béret français.
Quand on fait une bêtise, c'est pénible.
Non, mais écoutez, c'est vrai, autant être rigoureux. En même temps, on n'est pas une émission d'information. Nous sommes une émission de divertissement.
Le béret est bien vivant.
Voilà. Mais en tout cas, la preuve, vous aimez le béret?
Le béret.
Oui.
Oh, j'adore ça, mais Stéphane. Oui, je pense que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
Mais bien sûr, on parlait du béret. Eh bien voilà, ça marche très fort. Je vous présente
Pierre
notre
invité. C'est amusant.
Oui. De son passé de coureur automobile, il a gardé le goût de l'adrénaline, l'esprit de compétition et la rapidité des vannes, comme il nous l'a prouvé avec ses allers-retours en absurdie, ses recueils de chroniques désopilantes, et c'est un carton en librairie. Il a tellement voulu s'accrocher à son rêve de comédien qu'il ne boude pas son plaisir, alors qu'il est réclamé partout et par tous, même sur la scène de la salle Pleyel pour la cérémonie ce soir de remise des Césars, une invitation qu'il a déclinée, d'autant qu'il était pris, enfin jusqu'à hier soir, tout ce que vous voulez au théâtre Édouard VII, une pièce qu'il est venu nous présenter pour la première en septembre. Oui. Et c'est comme on boucle la boucle, vous êtes là pour la dernière.
Très heureux d'être là aujourd'hui.
Et oui, jamais à court de projet. Il sort à peine du théâtre pour entrer dans une série, la saison 3 de Kaboul Kitchen sur Canal+, tous les lundis à 21h. Un rôle d'escroc sympathique écrit sur mesure après le... Enfin, je veux dire, c'est pas que vous soyez un escroc.
Hein. C'est un peu...
Mais après le départ de Gilbert Melki qui était devenu trop cher pour la production. On comprend.
Oh, je suis cher aussi. Hein,
oui. Bah oui, je voulais pas dire que vous avez été bradé.
Bonjour, je vous remercie.
oui. Bah, vous êtes moins cher que lui.
Mais revenons plutôt au béret.
Il y a moins de taxes en Belgique.
Vous rapportez plus, c'est vrai. On comprend que cet amateur de l'absurde se soit senti à l'aise dans un restaurant au cœur de Kaboul où, entre deux attentats, la voiture piégée sur fond de corruption endémique, on y déguste une savoureuse cuisine en y faisant la fête. C'est dire si notre fonceur belge aime prendre des risques. Il est avec nous ce matin, Stéphane De Grotte.
Bonjour, merci Stéphane.
Et pour célébrer votre présence, eh bien, je vous ai préparé une interview afghane.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et je vous l'ai promis, cher Stéphane De Groot, une interview afghane. Pour Kaboul Kitchen.
Bien entendu.
Ce sont des proverbes afghans.
Oui, les fameux.
Oui.
Les fameux,
vous pensez que, alors, bien que la nuit soit sombre, la main ne manque pas la bouche.
Certes, c'est question de toucher en fait.
Oui, c'est sûr. Ouais. Bien visé quoi.
Voilà, même quand il fait noir, on trouve.
Et donc, c'est un proverbe afghan.
C'est un proverbe afghan.
À vérifier quand même. Enfin, bon.
Non,
je pense que c'est assez
on
juste.
On a vérifié. Ouais. Vérifiez pas. Quand un bâton agite la saleté, la puanteur augmente.
C'est toujours dans le noir ça.
Oui. Pas forcément. Ouais. C'est vrai.
Ah, mais c'est pas faux, oui.
C'est pas faux.
Oui. Ça crée des situations un peu. Oui, ça crée des situations.
Mais c'est très logique le proverbe afghan.
Oui. Un peu sale, parfois un peu salace. Un peu sombre.
Ce que tu craches ne reviendra pas dans ta bouche.
Eh bien, on n'en est pas sûr. Parce que s'il fait sombre, de nouveau, si on y réfléchit bien.
Non, mais pardon, là, vous avez
craché en l'air.
Donc, si tu craches, ça ne reviendra pas dans ta bouche.
Mais c'est vrai.
Mais tous les proverbes.
La symbolique de ça, ça veut dire quoi? Au-delà de ça, parce que c'est ça aussi, la morale de.
Ça veut dire que tout ce que vous dites. Enfin, je ne sais pas.
Ce que vous dites de mal, voilà.
De mal ne reviendra pas.
Ça ne vous profite pas forcément.
Ah voilà, ça c'est bien, Patrice. Bonne
exégèse. En général, ce qu'on dit de mal, ça te revient en plein poids.
Oui.
Tu sèmes ce que tu as récolté.
Écoutez, vous êtes allé en Afghanistan, moi jamais.
Même les surtout été dans la kitchen. Hein.
Même les ours ont leur flirt sur les collines.
C'est une belle poésie.
C'est très poétique.
C'est très afghan.
Ça ne veut rien dire, mais c'est très poétique. Un bon cheval se montre sous un bon cavalier.
Évidemment. Ça, c'est tellement évident, Stéphane. C'est même au-delà de la distance, cette pensée.
L'âne ne sait pas rire.
Mais il ne sait pas rire. C'est pour ça que c'est un âne. En fait, l'âne anonne.
Oui. En fait, c'est des proverbes après avoir fumé un peu d'afghan.
Oui, c'est vrai. L'oiseau voit le grain, mais pas le piège.
Certes.
Ah, Marc Giraud, vous êtes d'accord?
Oui.
C'est pour ça qu'il se fait avoir.
Mais c'est pas afghan, c'est juste un truc de logique.
Oui, mais
c'est assez con, en fait, le proverbe
est très logique. En été, le soleil peut cuire un œuf et changer en noir un blanc.
Et qui vole un soleil vole une saison.
Il est trop tard pour aiguiser le sabre quand l'heure de se battre est arrivée. C'est vrai. C'est au moment.
Ah oui, c'est trop tard.
Voilà,
T'es foutu. Hein.
Ouais, foutu.
Oui.
C'est plus un mode d'emploi que des proverbes. Hein.
Et je conclue par un proverbe chinois. Si la pierre tombe sur l'œuf, malheur à l'œuf. Si l'œuf tombe sur la pierre, malheur à l'œuf.
Ah, ça, c'est
vous laissez réfléchir là-dessus.
Il est formidable, celui-là.
Celui-là est très bien. Il est chinois en même temps.
Il est chinois.
Je vous laisse méditer pendant tout le week-end. Et on ramassera les copies lundi.
Il fait pas bon d'être un œuf en Afghanistan. Oui,
Non, parce qu'il peut être cuit au soleil.
Oui. Mais surtout au soleil, oui, c'est ça.
Et donc, l'œuf, c'était le proverbe chinois, c'est bien
ça.
C'est
hein.
Peut-être à cause du jaune, on ne sait pas. C'est amusant.
On va vous retrouver, Stéphane De Groot, pour parler de votre actualité, qui est chargée quand même, très chargée.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et nous sommes avec Stéphane De Groot. Je rappelle qu'il y a toujours aller-retour en absurdie son best-of chez Plon, mais surtout hier soir jeudi, c'était la dernière au Théâtre Édouard VII de tout ce que vous voulez d'Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte que vous jouez avec Bérénice Bejo. Vous étiez venu d'ailleurs pour la première le jour où la pièce débutait, ça a été un énorme succès.
Oui.
Est-ce que vous y attendiez ?
Alors absolument pas du tout, ça a été une aventure extraordinaire dans un lieu magnifique qui est le Théâtre Édouard VII. On a eu la chance de servir deux auteurs à succès que sont effectivement Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière qui avaient signé le prénom et un dîner d'adieu. Et quand Bernard Murat, le metteur en scène et directeur de théâtre, m'a proposé ce projet, déjà je me pinçais parce que moi j'étais souvent comme spectateur dans ce théâtre-là et j'avais vu les pièces des auteurs puisque j'avais joué le prénom en Belgique. Et donc quand ce projet m'a été proposé de fouler les planches de ce théâtre avec Bérénice, ça a été tous les jours, je me pinçais. Moi, mon rêve d'enfant de faire du théâtre, il était représenté par ce que j'ai fait pendant 6 mois.
Mais alors, ce qui était drôle, et dans cet attelage, si on peut parler d'attelage, mais cette réunion, c'est que vous aviez une vie avant la comédie. Et elle, c'est la première fois aussi. C'est la première fois qu'elle montait sur scène.
Donc elle fait beaucoup de cinéma,
jamais de théâtre.
Non,
vous prenez un risque en fait.
C'est un autre métier en fait d'être acteur de théâtre par rapport au fait d'être actrice de cinéma. Et donc effectivement, elle a découvert ça petit à petit, et ça a été, ça a contribué aussi au plaisir de cette aventure. C'était d'être très complice par rapport à ça et de la voir évoluer dans cette nouvelle technique. Et puis on a été tellement portés et aidés par le public qui était très nombreux et qui était très enthousiaste que ça a été, c'était extraordinaire.
Et entre la première et la dernière,
Je pense que c'est une autre pièce.
C'est une autre pièce. Oui, c'est très différent.
C'est une autre pièce parce que, déjà parce que Bérénice s'est sentie plus à l'aise et c'est en fait au début
elle était assez angoissée.
Elle était angoissée, mais c'est assez normal. Mais elle écoutait beaucoup les indications du metteur en scène et comme ça peut l'être au cinéma avec un réalisateur. Et petit à petit, elle s'est approprié le rôle. Mmh. Elle a un peu oublié les indications pour réinventer à sa manière le rôle, ce qui est le but du théâtre. Et à partir de là, c'est devenu, magique.
Mmh. Alors vous êtes obligé d'arrêter la pièce. Vous allez la reprendre en tournée, j'imagine.
À partir de janvier 2018, oui.
Voilà. Vous avez intégré le casting de la série Kaboul Kitchen sur Canal+, c'est la troisième saison. C'est facile d'être le petit nouveau d'une équipe qui tournait déjà, qui roulait?
A priori, non. Mais il se trouve que cette équipe a été tellement bienveillante et accueillante que je suis arrivé au sein d'une bande de potes, en fait, et qui, dès le premier jour, m'ont réservé un accueil formidable. Et puis surtout, j'avais la chance de me retrouver, d'être confronté à des acteurs comme Simon Apkarian,
qui est formidable, dans le fantastique, colonel,
qui est un homme merveilleux et qui est un acteur d'une générosité rare. Du coup, humainement, ça a été formidable et professionnellement, je me suis retrouvé avec des gens très généreux. Ce qui n'est pas toujours le cas.
Et mais c'était pas forcément gagné, quoi.
Oui. Non, c'était pas gagné.
Surtout qu'ils ont eu un coup dur. C'est-à-dire qu'ils avaient Gilbert Melki qui, du jour au lendemain, arrête. Donc, ils sont obligés de vous d'écrire un...
Il faut refaire
un scénario.
Je pense que les 5 épisodes qui étaient écrits pour Gilbert ont se retrouvé à la poubelle. Et quand ils m'ont proposé de créer un nouveau personnage... Michel Collincourt. très vite, je me suis rendu compte que je n'allais effectivement pas remplacer Gilbert Melki, ce qui n'était pas le but. Qui, par ailleurs, est un excellent comédien, je trouve. Oui. Et non, il voulait tout simplement inventer un nouveau personnage. Et d'ailleurs, moi, je n'avais pas vu les saisons précédentes pour arriver vierge de tout rapport entre les uns et les autres. Et pour découvrir ce Michel Collincourt dans les yeux du colonel Amanoula, dans les yeux de tous ces personnages qui ont fait que la fille de Gilbert, Stéphanie Pasterkamp, et je salue aussi Benjamin Belcourt, Alexis Michalik, tous ces gens qui ont fait les beaux jours de ces 2 saisons précédentes.
Et les auteurs disent que finalement c'est plutôt une chance, parce que ça nous a obligé à nous renouveler.
Ils sont obligés de réécrire, de se renouveler, bien sûr.
Oui, moi ce que j'ai cru comprendre de la part de Marc Victor, c'est que le personnage, le profil de Michel Collincourt ressemble un peu plus à celui qu'il avait imaginé au début de la série. Et du coup,
Marc Victor étant celui qui avait ouvert vraiment un restaurant.
C'est une histoire vraie. Il a ouvert en pleine guerre, avec les 2004, événements qui se passaient à Kaboul. Il a ouvert un lieu de vie, en fait.
Oui, où se sont produites des choses assez invraisemblables, qu'il a répertorié et qu'il a rapatrié dans la série. Donc on peut voir certains événements dans la série en se disant mais c'est surréaliste, c'est invraisemblable, et pourtant c'est basé sur des faits réels.
Mais d'ailleurs souvent on pense, par exemple quand on pense à la guerre et des situations de guerre dans des pays lointains, on pense qu'il n'y a que ça. En fait, les gens vivent encore. Ouais. C'est-à-dire que
les gens se divertissent, les gens essayent à travers ce genre de lieu d'oublier un temps, la guerre. Et c'est vrai qu'il se passait des choses assez délirantes dans ce Kaboul Kitchen et qu'on retrouve effectivement dans la série.
En même temps, il faut quand même le préciser, Stéphane Legault, vous n'avez pas tourné à Kaboul.
Ce qui aurait été
quand même un peu dangereux pour vous.
Peut-être un épisode, ce qui n'est pas beaucoup. On est parvenu à en faire deux.
Il y aurait eu une explosion de rire.
Et puis c'était fini.
Donc vous avez tourné à Casablanca, qui est évidemment
plus calme
au Maroc. Voilà, et d'ailleurs, il paraît qu'il a fallu... Kaboul a une particularité, c'est sans doute une très belle ville où ça l'a été, mais c'est très poussiéreux. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de poussière sur les murs. Et à Kaboul, et qu'à Casablanca, sur votre tournage, ils ont dû rajouter de la poussière.
Ah, c'est possible, je ne connaissais pas cette anecdote.
Il y a une machine à poussière. Une machine à poussière,
qui mettent sur le tournage.
Non, c'est vrai. Pour rendre
à poussière
l'apparence de Kaboul.
Ah non, j'ignorais. Donc c'est pour ça qu'il y avait de la poussière à Casablanca.
J'aurais
pu nettoyer pour le tournage, mais en fait, non, pas du tout.
Alors que normalement, il n'y a pas de poussière à Casablanca. C'est très bien sécurisé.
C'est l'Atlantique qui fait ça, l'air.
Oui.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et c'est un autre Stéphane qui est notre invité, Stéphane de Groot. Maintenant, vous savez, il trouve encore le temps de venir nous voir, mais c'est une grande star.
Tout a démarré ici.
Mais vous êtes une star immense. Et surtout, vous êtes demandé partout, donc je suis ravi que vous soyez avec nous. On va retrouver maintenant quelqu'un qui s'intéresse à la nature au fil des saisons, et c'est publié aux éditions Alary, c'est Marc Giraud.
À la une, l'actu des animaux, Marc Giraud.
En l'honneur de notre invité, on va jouer un peu sur les mots et sur les noms scientifiques, parce qu'ils sont tout à fait intéressants. Donc c'est scientifique, mais pas scientifique, je vous rassure tout de suite.
Ah, tant mieux, vous me rassurez.
Tout ça, vous savez que tous les êtres vivants sont nommés en 2 termes, un peu comme un nom et un prénom.
Oui. Tous les êtres vivants, ça a commencé avec Linné au XVIIIe siècle.
Linné, c'est
Linné, Carl von Linné.
Un Suédois.
Voilà. Alors lui, comme il détestait Buffon, par exemple, il a nommé Buffonia une plante absolument nauséabonde, épouvantable.
C'est méchant.
Ben oui, mais il y a plein de règlements de compte comme ça et dommages.
Est-ce que lui-même, Buffon a nommé des choses
Linoléum.
Ah non, c'est Linné qui nommait, justement. Ah oui, et lui-même, il s'est attribué une jolie fleur de Laponie, enfin voilà. Alors aujourd'hui, le problème, c'est... Enfin, c'est pas un problème, mais on découvre encore plus de 15 000 espèces nouvelles tous les ans. Mmh. Il faut leur trouver des noms.
Et pourquoi on leur donne pas des noms d'espèces qui ont disparu ?
Ah ben alors, on leur donne des noms d'espèces, qu'elles soient actuelles ou disparues.
Oui.
C'est exactement pareil.
D'accord.
Un mammouth a un nom latin. Voilà.
Et un... C'est un peu inutile parce qu'il ne reviendra plus, vous savez.
Oui, mais pour parler, parce que c'est un langage international. Ah. Par exemple, en pleine Sibérie, j'ai discuté avec un ornithologue russe et il ne parlait ni français ni anglais, donc on parlait latin. Il me disait Amberiza rustica, et je savais que c'était un bruant rustique, par exemple.
Oui, ça, on savait tout.
Voilà.
Ça.
Donc, alors,
est-ce quand même curieux si on reprend le terme mammouth, qui effectivement n'existe plus pour,
un papillon.
Pour une nouvelle fleur.
Mais on en parle encore.
Je vais t'offrir un bouquet de mammouth, c'est un petit peu compliqué.
Oui, tu penses au vase.
C'est ambitieux. Donc, dans les espèces les plus récemment décrites, par exemple, il y a une mythe qui a des poils orange sur la tête qui se nomme Neopalpa Donald Trumpy.
Ah, oui.
Vous avez saisi l'allusion ?
Donald Trump, oui.
Voilà. Et Barack Obama, lui, il a 9 espèces.
Ah bon ?
Un champignon, un poisson corallien, une mygale, par exemple. Mm. Donc, il en a plein. Alors que George Bush... à un petit bousier infâme. D'ailleurs, Rumsfeld et Dick Cheney aussi ont des noms attribués, enfin des bousiers qui ont leur nom, parce que sans doute les scientifiques ne les aimaient pas politiquement. Donc il y a plein de règlements de compte ou dommages.
Ils s'amusent en fait.
Ah oui, voilà. Angelina Jolie a une araignée chausse-trappe qui s'appelle Angelina Jolinae. Voilà.
C'est sympa,
très joli. Ken Switlet a un scarabée. Le Dalai Lama a un papillon du Tibet qui s'appelle Orontabia Dalai Lama.
Qui est carnivore d'ailleurs.
Oui, Sting et le prince Charles ont des noms latins, donc Stingae et prince Charlae, qui sont des grenouilles parce que ils sont battus pour l'Amazonie, tout ça. Donc ce sont des hommages. Johnny Depp, lui, par exemple, il a un crabe fossile qui a deux pinces. Donc ça, c'est un hommage au film Édouard aux bandes d'argent. Enfin, il y en a plein comme ça. J'arrêterai pas.
Depp, il dit comment son nom,
Alors,
comment on peut faire pour
Depp avoir...
Stéphane, oui, donner son nom.
Comment on peut faire pour donner son nom à une espèce ?
Alors je vous le dirai à la fin.
Ah bon, d'accord.
Mais je crois que vous n'aviez pas une rose qui porte votre nom.
Alors j'ai une rose qui porte mon nom, mais j'aurais bien aimé avoir une.
Ah, c'est pas pareil.
Et ça s'appelle comment la. C'est pas la Bernichou, c'est la Bernaé. La Bernaise.
Stéphane.
Ah oui, ça serait Bernaé ou Bernie.
Oui, c'est Bernie. Vous aurez une taupe. Oui, effectivement.
Pas une taupe.
Si, vous aurez une taupe, il est où le trou ? Vous aurez.
Il suffit d'ajouter Aé derrière.
C'est le gérondisme.
I ou Aé, voilà. I si c'est masculin.
Voilà, Carbusaé. Donc maintenant, je vais vous parler des trilobites. Des trilobites.
Oui,
ce sont des animaux qui ont trois lobes, évidemment, comme vous avez deviné. Ce sont des fossiles. Il y a Marilyn Monroe qui a.
Elle avait des fossiles.
Voilà.
Marilyn Monroe, elle avait vraiment
c'est
des fossiles.
Nora Safus Monroenae. Et il y a même des trilobites, par exemple, il y en a 4 attribués à chacun des Beatles.
Ah bon.
Ou aux Rolling Stones qui ont chacun leur trilobite, c'est comme
les Beatles avaient trois
voilà.
Ah oui, il y a des musicales aussi, les beats musicaux aussi.
Voilà, j'ai fait cette chronique exprès pour vous, je savais que ça vous inspirerait.
Merci.
Donc il y a aussi des couples, Simon et Garfunkel, qui ont chacun leur trilobite, Laurel et Hardy qui ont chacun leur insecte, et récemment, il y a une mouche au postérieur très très visible qui se nomme
qu'eux avaient une mouche dans le postérieur.
Non,
je l'ai compliqué.
L'un n'empêche pas l'autre. Donc cette mouche au postérieur très visible s'appelle Scaptia Beyoncéae.
Ah oui, Beyoncé.
Voilà.
Elle a une mouche sur le postérieur.
Voilà. C'est assez intense.
La mouche est visible.
Scaptia, c'est son nom de genre.
Ah oui, parce qu'on glisse vraiment, on peut très vite glisser dans Scat.
Ah oui, oui.
Tous les mots veulent dire quelque chose, en fait.
Elle est gâtée. Donc il y a des effets pervers parce qu'il y a des noms qui sont très recherchés. Il y a par exemple un petit scarabée aveugle qui a été décrit par un Allemand en 1937 qui s'appelle Anophthalmus, donc aveugle, Hitleri. En hommage à Hitler, et les nostalgiques du nazisme cherchent ce truc, et un petit scarabée Hitleri en bon état peut rapporter plus de 1000 euros, donc il y a tous les investisseurs qui cherchent des Hitleri. Donc il est en voie de disparition, le pauvre, il n'y peut rien.
Hein. Quand on le regarde bien à la loupe, il a une petite moustache.
Ah mais il y en a qui sont pour la moustache. Il y a une méduse, par exemple, qui s'appelle Zappa, à cause de ses filaments qui ressemblent à une moustache. Ah, il y a plein de choses, j'ai même pas le temps de tout vous raconter.
Il y a combien d'espèces
Alors, il y a plus d'un million, plus d'un milliard et demi qui sont déjà nommés, oui. Et encore 15 000 chaque année, donc il y en a
donc
beaucoup.
Donc comment, maintenant, terminons voilà. sur comment voilà. on peut donner son nom.
Alors, il y a des enchères.
Combien disparaissent chaque année, pardon
ah, il y en a 15 000 nouvelles. Il y en a tous les jours.
À peu près autant.
Et donc, à l'arrivée, oui.
En arrivée, ça diminue.
Mais il y en a combien ouais. qu'on regrette vraiment?
Ah mais toutes parce qu'elles sont aussi précieuses qu'un tableau de Vermeer ou de Picasso.
Non mais honnêtement, vous regrettez les mammouths.
Ah oui.
Vous regrettez les
dinosaures. Vous rendez compte, c'est fantastique.
Le vélociraptor, vous regrettez?
Non, mais... bien sûr. Non, oui, bah oui, c'est... oui, bien
non,
sûr.
Mais non, on ne le regrette pas.
Mais
non.
Même une mouche, je la regretterais, donc chacun ses goûts. Oh, oui. Donc comment.
Mais vous
comment
avez plein de regrets alors, parce qu'il y a
J'en ai beaucoup. Donc il y a des ventes aux enchères, il y a un singe qui a été découvert en 2005, donc c'est quand même assez rare que ça soit un gros animal.
Il y en a plein qu'on découvre tous les
jours. Son nom a été mis aux enchères, $650,000
quand même.
Voilà. Et si vous voulez un nom, un animal à votre nom, il faut payer au moins 2600 à 3000 euros et vous aurez alors si à votre nom
c'est drôle quand même un singe qui s'appelle le Berne
bah oui
juste pour ajouter Bernaé.
Voilà, voilà.
Mais Marc, il y a une gradation. Si on veut un animal un peu classe, c'est plus cher qu'un Bulgare Shepherd.
Oui, celui-là était très cher parce que c'était un singe. Donc il s'appelle, en gros, c'est un palace doré.
Et voilà. À l'inverse, si je veux appeler mon labrador Stéphane Bern, qu'est-ce que je dois faire
Ah, bah là, c'est gratuit, là, c'est chez vous. Voilà, avis aux amateurs, si vous voulez un Bernaé, ça vous coûtera au moins 3000 euros.
Merci beaucoup, Marc Giraud. On en apprend des choses. Allez, on va retrouver Stéphane De Groot dans un court instant.
Vous écoutez RTL.
L'interview, c'est vrai que.
C'est le bureau de vérification des informations, Stéphane De Groot. Ouais. Vous ne pouvez pas ne rien faire. Il faut vous avez toujours besoin de vous occuper en permanence et vous ne vous sentez pas bien physiquement oui. si vous ne le faites pas.
Mais c'est comme en vélo, si je ne pédale pas, je tombe. Alors du coup, je me fais mal et je ne me sens pas bien physiquement. C'est un peu comme ça dans la vie.
Ça vient du temps où vous étiez coureur automobile ou pas du tout?
Je pense que je suis devenu coureur automobile aussi pour ces raisons-là. Ouais, oui. J'ai besoin d'être en mouvement. D'ailleurs, mes idées viennent en mouvement. Je ne peux pas m'asseoir devant mon ordinateur et commencer à composer. J'ai besoin de marcher, j'ai besoin de prendre une douche, j'ai besoin de
faire des choses.
J'ai besoin de faire des choses. Et pourtant, je ne suis pas hyper actif. C'est juste que je me dis qu'on n'a pas beaucoup de temps et que je me retrouve dans une énorme plaine de jeux. Et du coup, j'ai envie de jouer tous les jours, tout le temps.
Ça se comprend. Patrice,
vous pouvez être un peu timide, mais quand quelque chose vous tient à cœur, vous y allez, vous foncez, vous jouez des coudes. C'est comme ça, par exemple, que vous avez apporté un jour une cassette à Canal+, et ils vous l'ont diffusée parce que tellement vous avez insisté, quoi.
Oui, alors c'est pas tant que je suis timide, je suis plutôt discret.
Discret, oui, discret, voilà.
Et c'est vrai que je suis animé par des dessins particuliers, des envies, des objectifs. C'est vrai que je pense que c'est cette âme de compétiteur, c'est de se battre à tout prix pour obtenir quelque chose. Moi, j'ai toujours vraiment voulu décrocher la Lune et du coup, j'ai utilisé pas mal de moyens pour alunir.
C'est bien. Donc, vous étiez petit, vous rêviez de devenir cosmonaute, mais aujourd'hui, vous considérez qu'être acteur, c'est avoir la tête dans les étoiles.
Absolument. J'ai pris ma fusée et je suis très content de voyager dans cet univers un peu particulier, plein d'étoiles.
Au milieu des stars.
Oui, juste.
D'autres questions?
Oui, Danny Boone aurait aimé vous produire dans un one-man show, mais vous n'avez pas voulu monter seul sur scène, c'est vrai?
Non, parce que j'ai peur tout seul.
Il faut des gens pour vous accompagner.
Non, mais je pense que... Moi, j'ai l'impression de fonctionner un peu comme le clown blanc et l'Auguste. J'ai besoin d'avoir un partenaire.
Attention, parce que là, c'est très compromettant. Il semblerait qu'en classe, vous aviez monté un business de raviolis frits. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information?
Je vous confirme ça. Et d'ailleurs, mon professeur était très inquiet parce que pour faire des raviolis, il faut de la farine. Et il avait l'impression que je faisais plus un commerce de drogue que de raviolis.
Gênant.
Et je lui ai dit qu'effectivement, je vendais des raviolis pour qu'on puisse les sniffer à la place de la coke, et c'est moins nocif.
Et quand vous lui avez dit que vous vendiez des raviolis, c'est là qu'il s'est dit que vous étiez vraiment drogué.
Ouais. C'est là qu'il m'a dit qu'il y avait un petit problème.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Toujours avec Stéphane De Groot. Alors, maintenant que vous jouez plus au théâtre demain soir, vous irez au César?
Non, parce que je vais m'offrir quelques vacances, mais je penserai à Jérôme Commandeur, parce que c'est
Vous avez failli présenter.
Oui. Pourquoi vous avez refusé?
Mais parce qu'il faut beaucoup de temps pour présenter les Césars, que j'étais sur scène, que j'étais en tournage en plus. Je tourne le film de Bruno Chiche avec Louise Bourgoin. Et voilà. Et donc, pour présenter ce genre de cérémonie, il faut être totalement disponible. Ouais. Et je ne l'étais pas. Bon,
très bien.
Un jour peut-être.
Eh bien, vous savez que demain soir, RTL aussi, on pourra suivre la cérémonie des Césars. Eh bien, il y a une auditrice qui s'appelle Pierrette, qui a participé au jeu de Vincent Perrault, Stop ou Encore, et elle a gagné une invitation à la soirée des Césars et une nuit à l'hôtel 4 étoiles, les Tuileries. Et nous l'avons en ligne, Pierrette. Bonjour Pierrette.
Bonjour Stéphane.
Quelle joie de vous entendre.
Oh, moi également.
Écoutez, alors racontez-nous comment c'est passé. Vous avez participé au jeu de Vincent Perrault.
J'ai eu beaucoup de chance. J'ai participé vraiment sans y croire vraiment. Et puis j'ai été retenue, j'ai été sélectionnée. Et au tirage au sort, j'ai gagné. Vraiment, j'étais très, très contente.
Et alors, vous êtes prête pour ce soir ?
On se prépare, ça y est, c'est les vous derniers êtes... préparatifs. Bon.
Vous êtes nommée dans quelle catégorie, Théâtre ?
Elle va être nommée. Alors, la robe, comment vous avez trouvé de comment vous allez être habillée ?
Alors, je vais être habillée d'une robe longue.
Oui.
C'est l'occasion ou jamais.
Ah bah oui, ça.
Je vais avoir, bah oui, je vais me mettre quand même sur mon 31, les talons hauts, et mon époux qui m'accompagne sera
en smoking. Ah bravo, ah, et quelle couleur la robe, pour que je vous repère.
La robe est noire et crème.
Très bien, bon choix. Alors, ça va être un peu impressionnant, j'imagine, vous allez fouler le tapis rouge, vous allez côtoyer...
On se rapproche et on
est
un petit peu... Ouais.
J'aime bien croire. Et votre mari est content d'y aller ou il s'est fait
oui,
un petit...
Oui, très content. Ouais, ouais. On aime beaucoup en plus le cinéma. Ah, c'est ça, bien. Donc c'est vraiment... pour nous, on va vivre un rêve quand même.
Ah, c'est... En tout cas, on est heureux que vraiment RTL vous ait permis cette opportunité.
Formidable.
Je voulais vous passer un petit coup de fil pour vous souhaiter bonne chance pour les Césars. Et surtout vous remercier encore une fois de votre fidélité, de votre écoute à RTL.
Une fan de RTL.
Et ben c'est la raison pour laquelle il faut vous récompenser. Merci beaucoup, Pierrette.
Et je vous souhaite. Merci encore.
Merci et bonne soirée des Césars. Alors, à bientôt. Alors, Patrice, il y a aussi une autre chose qui s'est passée cette semaine, c'est que il y a eu un drame. Oui, parce que j'ai dit à tort que la maison Lolaire, voilà, était la dernière maison à faire des bérets.
Ouais.
Or, il y a d'autres maisons.
Il y a le béret français.
Il y a le béret français aussi. Oui. Alors, justement, j'ai voulu réparer.
J'ai essayé de vous le dire, mais vous n'avez pas laissé la parole à ce moment-là.
Je vais vous dire, Régis, quand on a tort, il faut accepter de reconnaître ses erreurs.
C'est pas ce que vous dites. Aveugle, hein.
Donc c'est la maison Las, L-A-S,
c'est le village où
se trouve là.
Alors c'est Nathalie de Mauduit est au téléphone, je l'espère, elle est directrice commerciale et marketing de la société Le Béret Français, qui est donc à Las dans les Pyrénées, c'est ça?
Oui, hein, l'autre Pyrénées.
Et bonjour Nathalie.
Bonjour Stéphane, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour, alors on vous fait nos plates excuses, vraiment là. Je suis sous la table, enfin presque, parce que sinon je ne pourrais pas parler.
Remonter d'ailleurs.
Mais parce que vous savez, nous, on a vu un papier dans Le Parisien, comme tout RTL fonctionne comme ça, on lit Le Parisien, puis ensuite on fait des...
Aujourd'hui en France.
La prochaine fois, c'est des excuses RTL qu'il va falloir présenter.
Non mais vous avez vu. Non mais c'est vrai que
si la rédac avait bossé, on n'en serait pas là. Hein.
Cela dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'usines de bérets qui ont disparu quand même.
Exactement, vous avez raison. Alors, je suis ravie que vous m'appeliez, merci beaucoup, pour expliquer un peu quelques petites choses. En particulier, là, c'est les Pyrénées, mais ce n'est pas les Hautes-Pyrénées.
Non, c'est le Pyrénées.
64.
Pyrénées-Atlantiques. Pyrénées-Atlantiques.
C'est quoi, c'est un village
Oui, là, c'est un tout petit village, en fait, c'est même une principauté.
Ah oui, mais vous êtes vexé, oui. J'imagine que ce moment, l'élastique. C'est amusant. Écoutez,
vous avez dit
un peu de rigolade.
Un mot étonnant, vous avez dit principauté tout de même.
Oui, c'est une principauté, c'est pour ça que j'aurais dû le savoir.
C'est lamentable, excusez-moi.
N'importe quoi du début à la fin.
Mais bien sûr. Alors, donc, à Las, vous faites donc des bérets, le béret français. D'ailleurs, j'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps qui montre ce que vous faites. Ça reste à la mode, le béret, on est d'accord.
Exactement, oui. Vous avez dû voir le reportage sur Météo à la carte il y a quelques semaines, où on voit très très bien toute l'équipe. Nous sommes 5. Donc Pascal et Evelyne qui ont pris la tête de la fabrique en 2012 quand on a créé la société et la marque.
Oui.
Donc vous disiez à la mode, oui, à la mode traditionnelle d'un côté,
et mode de l'autre.
Artisanale,
voilà.
Multicolore et à la mode.
Si on peut demander des bérets sur mesure, de faire une commande particulière de bérets.
Oui. Non, jusqu'à présent non, mais pourquoi pas si vous en voulez un.
Vous en voulez un comment, Stéphane?
Mais par exemple, oui, en feutre. Qu'est-ce que vous avez comme couleur?
Alors on a 25 couleurs.
Ah bien, avec 25 couleurs, multicolores, un béret.
On a des variétés avec des marinières, si ça vous intéresse.
Oui.
Vous avez plus français que français avec des marinières.
Oui, parce qu'il est entre deux tailles de tête.
Oui.
Pour ça.
Oui.
Est-ce que c'est plutôt pour les femmes ou pour les hommes, vos bérets?
C'est tout à fait les deux aujourd'hui.
Les deux.
C'était un artifice, un accessoire qui était très masculin au départ et qui est devenu maintenant de plus en plus féminin.
C'est plus le féminin qui est à la mode, non?
Maintenant,
oui, le féminin, c'était la mode, mais étonnamment, on a de plus en plus d'hommes et de jeunes hommes qui aujourd'hui portent le béret. Mais, alors, ils le portent différemment, hein. Ils le portent un peu comme une casquette, plissée à l'avant.
Oui, plissée à l'avant, absolument.
À l'avant.
Oui. Oui. Et c'est vrai que...
Pas sur le côté comme en 40...
Ça va revenir, Patrice, n'insultez pas l'avenir.
Oui, n'insultez pas l'avenir. Cela dit, il y a combien... Parce que maintenant, je prends mes précautions, Nathalie. C'est-à-dire que je me dis, il y a combien encore de fabrique. Alors, il y a l'Oler, il y a vous, le béret français. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a d'autres? Il y a des ateliers près de chez vous?
Je propose qu'on en appelle un tous les jours.
On est, à notre connaissance, aujourd'hui, on est trois, tous dans le Béarn, d'ailleurs. Le béret est béarnais et pas basque, hein, je peux vous le savoir.
Oui, absolument.
Et les trois fabricants, effectivement. Le troisième, c'est un artisan qui est basé à Oloron, juste à côté de Pinoty, à une quinzaine de kilomètres.
Très bien. Bah, vous le saluerez de notre part, parce que je ne voulais absolument pas le vexer. Et, est-ce que, au fond, vous devriez connaître ça, Patrice.
Le béret, j'ai longtemps défendu le béret. J'avais même inventé un jeu qui s'appelait le tennis béret.
Et votre ami François Bayrou devrait porter le béret.
Mais on porte tous le béret.
Il est de peau.
Mais je vous redonne mon slogan. Hein,
le
béret,
chaud l'hiver, frais l'été.
Mais attendez, Bayrou, il ne peut pas porter le béret, il change de casquette tous les jours.
C'est parti.
Ah ouais, non, voilà.
Les militaires portent le béret, les parachutistes, les bérets verts.
Oui. Vous fournissez l'armée aussi?
Non. Nous, on est à peu près 10 fois plus petit que notre ami que vous avez
invité. Voilà, Lola.
Je voulais juste revenir sur le fait que je vous remercie de nous avoir tendu cette perche après mon petit message sur Facebook.
Mais oui, mais c'est moins
parce que je voulais rectifier moi en fait la vérité, parce qu'on est une toute petite équipe, je vous disais, il y a 5 personnes qui travaillent à l'âge, c'était un petit peu triste.
Non, mais
et déçu que il y ait cette polémique où si l'autre dit je suis le seul, ça veut dire qu'on n'est pas français et on s'appelle le béret français.
Vous avez raison. Et puis moi, vous savez, si ça peut me faire gagner 5 auditeurs, je suis très content parce qu'il n'y a pas de raison. Je ne veux pas vous blesser. Je ne veux pas vous blesser. Je ne voulais pas vous froisser, ni froisser le béret. Surtout pas le béret français.
Non.
Voilà. En tout cas, vous m'avez.
On est fiers de ce qu'on fait.
Mais bien sûr.
On ne pouvait pas laisser passer le fait que.
T'as bien raison.
Bravo.
C'est pour ça que je n'ai pas hésité. Je vous ai appelé tout de suite en disant c'est pas normal. Il faut défendre la vérité d'abord.
Les petits artisans.
Le béret français existe à Lasse. Voilà. Et il y a encore cet autre atelier dont vous nous avez parlé. Donc il reste 3 fabriques en France qui confectionnent
plus qu'une
le béret. Pardon.
On n'a plus qu'une appel, mais ce sera lundi.
Merci en tout cas,
merci
Nathalie. Et bravo, et saluez toutes les équipes de notre part.
Voilà. Ça marche, merci beaucoup.
Merci, au revoir. Bon, maintenant qu'on a fait le tour du béret, on va retrouver celui qui a la grosse tête, j'ai nommé Éric Dussart.
Vous écoutez RTL. À la bonne heure, Éric Dussart met la télé sur écoute.
Alors, on commence avec l'événement télé du jour.
Et oui, événement télé et cinéma, puisqu'il s'agit de la 42e cérémonie des Césars qui sera diffusée en clair ce soir sur Canal+, à partir de 21h. Alors, à la présentation cette année, vous le savez, c'est l'excellent Jérôme Commandeur qui succède à Florence Foresti. Et je peux vous dire qu'il y en a une qui est très contente que Foresti ne remette pas le couvert cette année. C'est la ministre de la Culture, Audrey Azoulay.
Azoulay, où c'est qu'elle est, la ministre Azoulay? Azoulay, putain! Azoulay! Y a pas une soirée avec Azoulay qui se termine pas en chevilles! Mais le ministère de la Culture, tu les connais pas dès qu'ils ont fini de bosser vers 15h? Mais c'est karaoké, apéro et tout, ça n'existait plus! Anne Hidalgo, où est-ce qu'elle est, Hidalgo? Hidalgo, la reine de la night! C'est la reine de la night, Hidalgo! Tu sais comment on l'appelle chez nous, Régine? J'ai déjà vu rentrer à 6h du mat en roue arrière sur un Vélib! Hidalgo, foutez-moi une place de stationnement en bas de chez moi, j'en peux plus de ces autolibes! Oh, les deux roues, qu'est-ce qu'on a à foutre, arrêtez!
Effet exceptionnel, vous avez entendu, on pouvait distinguer quelques rires dans la salle des Césars, ce qui est à peu près aussi fréquent que dans une salle d'autopsie. Donc bravo pour la performance, c'est Jérôme Commandeur qui s'y colle ce soir. Alors, il faut dire aussi qu'il y avait du lourd l'an dernier, puisque outre Florence Foresti, il y avait l'actrice Zabou, qui elle aussi avait fait un sacré numéro sur scène.
Il y a ici ce soir des gens de grand talent.
Et des gens qui n'en ont pas du tout.
Non, il y a des gens vraiment merveilleux ce soir.
Oui, et des pourritures humaines qui vendraient leur mère pour une paire de Louboutins.
Faisons toujours preuve de générosité et surtout, Zabou, d'humilité.
Oui, car ce n'est pas les Oscars, c'est juste les Césars.
Non, mais c'est pas très sympa pour les votants.
Tu m'expliques pas la vie, s'il te plaît, car crois-moi, j'en ai déroulé du câble. Alors arrête.
Les Césars sera donc à suivre ce soir sur Canal+, mais aussi sur RTL. Hein. Et croyez-moi, ça ne va pas être triste, puisque, on l'a dit, notre monsieur cinéma Stéphane Boutsock sera accompagné de Vincent Perrault-Laure Marsic, mais aussi de Patrice Lecomte et de Dominique Besnéard. Donc, c'est à ne pas louper, c'est à partir de 20h sur RTL, les Césars.
Elle aussi méritait une récompense.
Ah oui, la statuette de l'animatrice la plus patiente, celle qui tous les jours a en direct dans son émission des appels improbables, des gens qui ne savent pas pourquoi ils ont appelé, d'autres qui appellent pour chanter faux. Je veux bien sûr parler de notre copine Isabelle sur IDF1, Stéphane. Écoutez, elle a encore parlé de nous.
Allez comme Gauthier, vous pouvez me joindre 32 67, le standard est ouvert d'ailleurs, comme le dit si bien Stéphane Bern et Éric Dussard, il n'y a pas de standard. En fait, vous appelez, vous passez directement à l'antenne ici pour me parler, voilà, c'est super facile. Donc voilà, vous m'appelez, on filtre pas les appels, tout le monde peut passer dans cette émission, donc n'hésitez pas. Et puis même si monsieur Stéphane Bern et Éric Dussard veulent m'appeler, c'est avec grand bonheur que je jouerai avec eux. Voilà, ils vont gagner un super t-shirt en plus.
Bon bah alors si en plus il y a un t-shirt à gagner... Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, Stéphane.
Parce que vous,
mais
il faut jouer XS.
Monsieur, 12 ans. XS, 12 ans. Bah, ben on va peut-être essayer de jouer. Hein, vous savez quoi, on va essayer de jouer. On va voir si on arrive directement à l'antenne sans passer par le standard.
Ah oui, alors attendez, on va appeler IDF.
On va appeler IDF, notre chaîne favorite. Alex a le numéro, je crois, Germain aussi. On va essayer de les appeler. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô, IDF1? IDF1, allô, ah bah c'est bien IDF1 qu'on appelle. Allô, il y a quelqu'un? Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Isabelle, je m'appelle Marc.
Marc.
Oui, Marc, celui qui appelle tous les jours en fait. C'est moi.
Ah oui, non, c'est pas la même voix que je connais là du Marc.
Bon, alors c'est un Marc, mais pas le même nom de famille. Dussard, Hiberne, ça vous dit quelque chose Isabelle?
Marc Dussard.
Voilà, c'est ça.
Éric
Dussard.
Par exemple. Et c'est Stéphane Bern.
Un certain Stéphane Bern, c'est la radio RTL qui vous appelle.
Bonjour Isabelle.
Oh, c'est vous génial, bonjour.
Vous nous confirmez, nous sommes bien en direct intégral sur la chaîne internationale IDF1?
Mais totalement.
Oh, ah, c'est totalement génial.
Il y a beaucoup d'émotions. Hein.
Parce que nous, on la regarde, enfin surtout Éric Dussard.
Oui, oui, vous savez qu'on ne vous lâche pas.
Et pourquoi vous dites jamais, Isabelle, aux gens qui chantent faux, qui chantent faux?
Mais parce que j'adore ce message des spectateurs, alors je suis trop contente.
Ah oui, je comprends.
On s'excuse
parce
auprès
que nous,
de...
on les entend, ils chantent vraiment faux. Hein.
Mais vous savez quoi, Isabelle, justement, ce serait pas mal qu'on fasse jouer Stéphane dans un petit « Tu chantes, tu gagnes », vous en pensez quoi?
Est-ce que je pourrais lui dire qu'il chante faux?
Oui,
ah bah, j'aurais le droit de lui dire la vérité.
Alors, bravo. Moi, c'est vrai, je chante faux. Ça je le sais,
mais avec plaisir.
Oui. On va tenter, alors. Allez, on va lancer une petite chanson, rien que pour vous.
D'accord, mais
Stéphane,
quoi?
Stéphane, c'est à vous. IDF1, tout IDF1 vous regarde.
D'accord.
Attention, vous hein. Musique, c'est parti.
C'est bien pour vous. C'est Nana Mouskouri, quand ça s'arrête, vous devez chanter. Hein.
Chante quand tu chantes, même si ça ne va pas.
Plus fort.
Quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, tu sais pas pourquoi. Quand tu chantes,
oui,
quand
facile,
tu chantes,
hein.
Ça va. Quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes,
ouais,
bah,
ça va, justement, maintenant.
Quand tu... Cinq fois. Là.
Ah, et voilà, vous avez eu votre bravo, Stéphane. Elle l'a fait. C'est bien la seule fois dans l'histoire d'IDFA que Stéphane Bern chantera en direct du Nana Mouskouri. C'est un moment collector.
Au début, c'était pas facile.
On va rebaptiser. Mauvaise idée, mauvaise idée.
Est-ce qu'il y a... Un petit t-shirt IDF1, vous irez.
Oh bah oui, oui.
Mais un petit alors. Alors petit pour Eric parce qu'il fait un sous-S.
Voilà, c'est ça.
Et moi je fais un M. Moi,
et bah voilà, médium. On en verra tout ça.
C'est ça.
Super. Voilà.
On fera la photo avec. Et puis bravo encore à nous dire, à notre tour de vous dire bravo Isabelle parce que je pense qu'il n'y a pas animatrice télé plus patiente et plus sympathique qu'Isabelle.
Ah oui,
et on continue à vous regarder, surtout ne changez rien. Hein, c'est
bah,
parfait pour nous.
À vous écouter sur RTL.
Merci.
À tout
on
bientôt.
Vous embrasse Isabelle. Bonne
merci.
Journée.
Et bonjour aux téléspectateurs d'IDF.
RTL, il est midi.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours avec Stéphane de Groot et nous retrouvons Régis Maillot pour VDB.
VDB, la vie de Bern.
Régis Maillot.
Mercredi, nous recevions Christian Clavier et Audrey Dana pour une comédie. L'histoire d'une femme qui un matin se réveille et devient un homme. Une histoire qui a beaucoup troublé notre Stéphane Bern. Depuis, il se pose des questions sur son identité profonde.
Entre, Maillot. Je suis au sous-sol dans le dancing.
Pas exagéré.
Qu'est-ce que c'est que cette tenue, patron? Il n'y a plus de patron. Appelle-moi Steph. Bah, disons que je vous connais, disons que je vous appelle patron, je vais pas du jour au lendemain vous donner du Stéphane. Mais je t'ai pas demandé de m'appeler Stéphane, sombre idiot. Bah, comment vous voulez que je vous appelle alors? Stéphanie, Steph de Monac. C'est ma nouvelle identité. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Puis arrêtez cette musique-là. J'ai changé, maillot. J'ai changé, regardez, tu n'as rien vu venir. Bah, en même temps, je vous ai tellement vu de fois porter des robes pendant les soirées chez Carmouze.
Oh, faut pas exagérer, jamais.
Ça m'a pas mis la puce à l'oreille plus que ça, là. Hein. J'ai un aveu à te faire. Hier soir, maillot, j'ai eu une révélation.
Je suis enfin devenu femme.
Une femme.
C'est vraiment chiant, hein, je t'ai dit.
Dans tes bras. Mais arrêtez de me tripoter, oh. C'est hyper bizarre votre comportement. C'est la nature, maillot. Autant quand j'étais un homme, je te trouvais très vilain. Autant à présent, tu m'attires. Ah bah bon, peut-être, mais moi j'ai besoin un peu de temps. Du temps pour quoi? Bah pour me faire d'idées déjà. Et puis quoi? Qu'est-ce qui te dérange? Ce qui me dérange, c'est que d'après ce qui dépasse, la transformation en femme n'est pas encore tout à fait aboutie. Hein. La chenille est encore restée dans la chrysalide. C'est un détail, maillot. Bah, c'est un détail qui fait son poids. Hein. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Rien de grave, patron, c'est classique. C'est écrit là dans Biba cette semaine. Les hommes ont de plus en plus un côté féminin plus ou moins développé. Voilà, mais c'est ça, je crois qu'ils ont raison. Tu sais, maillot, j'ai mon côté féminin très très développé. Je te cache pas que ça me joue des tours. Bah, racontez. La preuve, ce matin, avant de venir, j'ai changé 5 fois de tenue. Je sais, c'est idiot, mais c'est compulsif. Comment tu me trouves? Bah bien, mis à part les talons, là. Tous les indicateurs sont au rouge, maillot. L'autre jour, je vais au restaurant, direct, je commande une salade. Verte, avec la vinaigrette à côté. Et un coca. Light? Évidemment, light. Je pars ce week-end à Rio, je rentre dans aucun maillot. Continuer là. Et après c'était l'escalade, maillot. Au bon marché, 2 heures pour choisir une cravate. 2 heures, ça m'était jamais arrivé. Ah ça c'est typiquement un truc de femme. Mais c'est un cauchemar, maillot. Je me sens de plus en plus dominé par mon côté féminin. À la moindre vexation, je vais chez le coiffeur, j'achète des fringues, je couche avec Carmouze. Oh. Vous êtes en train de vous transformer en parfaite parisienne. Je me rends compte que je fais des trucs que je faisais pas avant, maillot. C'est énervant, j'ai toujours un tampon dans mon sac à main.
Oh non.
Vous avez un sac à main? Ben oui, évidemment, j'ai un sac. C'est quand même plus pratique pour ranger ses petites affaires. Oh, mais arrêtez de chialer, j'en ai marre. Oh, je maîtrise plus rien. Au bureau, je bois du thé vert toute la journée. Dans un mug Hello Kitty. Du coup, je passe ma vie aux toilettes. Assis. Assis? Vous pissez assis, maintenant? Ben oui, on peut se faire les ongles en même temps. Ah ouais, c'est sûr, c'est pratique,
votre
affaire.
Vous avez une vision des femmes assez bizarre, quand même. Mmh.
J'en parlais l'autre jour, d'ailleurs, maillot avec mon esthéticienne. Vous allez chez l'esthéticienne? Évidemment. D'ailleurs, il va falloir que j'y retourne. J'envisage sérieusement l'épilation définitive. Parce qu'entre nous, la cire chaude sous les dessous des testicules, je suis trop sensible pour supporter ça encore longtemps. Bon, allez, je te laisse, maillot. J'ai manucure avec Joël Goron et puis on doit aller regarder la fin de Moulin Rouge.
Ah là là là. Vous savez, les femmes sont plus comme ça hein, aujourd'hui.
C'est votre vision.
Ouais. Non, c'est votre vision. Ah, merci Régis Maillot.
C'est un sketch.
Oui, je sais, mais j'ai le droit de contester.
Oui.
Il ne veut pas s'excuser encore la semaine prochaine.
On va appeler le béret.
Moi, je m'excuse tout le temps. Je passe ma vie à m'excuser. Le 1er mars, Régis Maillot à Roche-la-Molière. Le 4 mars à Sanary. Le 7 mars à Nîmes. 8 mars à Palavas, journée de la femme. 17 mars à Effre.
C'est à côté de Niort, ça.
Ah oui. Enfin, et le 7 avril à Royat, le 8 avril à Lyon.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et c'est le moment de l'interview ou avec notre invité Stéphane. Vous préférez, Stéphane, le théâtre ou le cinéma?
Ou.
Mais les deux.
Bruxelles ou Kaboul?
Bruxelles.
Bruxelles.
Sympa, c'est bien.
Le crouti ou les moules frites?
C'est quoi le crouti?
Le crouti, c'est une spécialité afghane de pain sur lequel on met du croûte.
on met du Stéphane de
c'est
croûte.
Stéphane de croûte.
Les moules.
Les moules frites, oui.
Oui, c'est plus rassurant.
Vous préférez Danny Boone ou Claude Lelouch?
Oh, mais attendez, c'est pas comparable.
Parce que vous tournez, là, vous avez tourné avec Claude
Lelouch. Oui, dans Chacun sa vie.
Dans Chacun sa vie, il paraît que le film est génial.
Ah, c'est très très drôle. Vous allez voir, vous êtes surpris parce que je pense que c'est le film le plus drôle de Claude Lelouch. Et puis l'affiche est assez surréaliste.
Ah, Johnny, il y a tout le monde. Il y a tout le monde.
Johnny est très très drôle. Vous allez voir, c'est vraiment une très très belle surprise. Ouais. Quand je dis surprise, c'est parce que j'ai pas l'impression que Claude Lelouch ait fait beaucoup de films de aussi drôles que ça.
Je crois qu'on va être surpris. Vous préférez Spa Francorchamps ou les 24 heures du Mans?
C'est pas Francorchamps, j'y ai participé 10 fois, donc ça a été un endroit assez marquant, et c'est un endroit aussi où j'allais voir quand j'étais petit, j'allais voir Jean-Louis Trintignant.
Ah oui.
Et donc c'est plein de souvenirs assez merveilleux.
Vous préférez Mathieu Delaporte ou Alexandre de la Patellière?
Comment se fâcher?
Les deux auteurs, je rappelle, de comme,
je sais pas, tout ce que vous voulez, Stéphane.
Tout ce que vous voulez, Fredon, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Alors maintenant, j'ai pensé à vous parce que la question Tesla que nous posons tous les jours, elle vous va comme un gant, si je puis dire.
Oui.
C'est pour, vous connaissez les voitures autonomes.
Oui.
Eh bien, pour éviter un accident grave comme la mort de 10 enfants, vous avez le choix. Soit vous écrasez une femme enceinte, soit une personne âgée.
Ça vous va comme un gant parce que vous êtes un meurtrier, on le rappelle.
Mais non, mais parce qu'il adore l'absurde.
C'est absurde pour le coup.
J'écrase la personne âgée.
Ils peuvent mais plus pas, se faire écraser.
Je ne vous considère pas comme une personne âgée. Je vous considère comme une jeune femme. On met des années à devenir jeune, vous savez.
Est-ce que ça change si vous avez le choix entre quelqu'un de beau et quelqu'un de laid?
J'écrase le beau.
Oui, mais pourquoi? Tout le monde nous dit ça. Pourquoi?
Mais parce qu'il a déjà eu la chance d'être beau, et donc chance, voilà, maintenant, il a la chance au lait.
C'est du racisme anti-beau, c'est incroyable.
Mais non, c'est donné sa chance. Oui,
les
beaux
se font shooter tout le temps.
Oui, mais rassurez-vous, nous, on est tranquille. Question bras. Si on vous promet qu'en vous coupant un bras, il n'y aura plus de misère dans le monde, vous sacrifiez un bras?
Mais je veux bien les deux bras, alors. Mais je ne peux plus donner de coup de main, alors, après.
Ah, pas mal. Très bien. Bon, mais il a bien répondu. Allez, maintenant, à propos d'absurde, on va rester dans ce monde de l'absurdie avec le test, le quiz musical de Patrice Carmouze.
Vous écoutez RTL.
Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze.
Alors, Patrice, nous jouons pour deux auditrices. Ouais. Stéphane et moi, les deux Stéphane jouent pour Sylvie et le reste du monde joue pour Noël. Et je rappelle qu'il y a à la clé, grâce à Vacances Bleues, un séjour d'une semaine pour deux personnes en demi-pension au club Serre du Villard à Serre-Ponçon dans les Alpes du Sud. Alors, nous jouons avec les chansons.
Chansons qui nous font voyager.
Comme Kaboul. Comme Kaboul Kitchen.
Donc, il suffit de reconnaître qui chante cette chanson. Et on commence par vous deux.
D'accord, très bien. Je vais me faire des ouais, bah, Stéphane, à toi l'honneur, si tu veux y aller.
Oui, Fastoche. Comment c'est j'ai le droit de le dire, Gérard Blanc.
C'est pas qui c'est.
Bah, c'était le groupe, ça s'appelle
Martin Circus. Ouais.
J'ai jamais entendu cette chanson, pardon.
Je m'éclate au Sénégal.
Ouais. Elle est déjà sortie, la chanson
ouais. Oui, c'était la chanson préférée de Ségolène Royal, d'ailleurs.
Non, elle était très connue.
Bon, alors, Marc, alors.
Arrêtez.
C'est les Rolling Stones?
Non. Mais non, c'était les Beatles.
Ah bah oui, bah
arrêtez. Back in the USSR.
Bah ouais, bien sûr.
Non mais
bien
terminez sûr. La semaine en étant un peu honnête, là, Stéphane.
Alors, troisième extrait, c'est pour vous là.
Il est malade, hein.
Oui.
À Istanbul, c'est Dario Machin à Moreno.
Moreno.
Dario Machin.
Machino. Il le fait bien.
Ouais, on y croit. Hein,
ouais, on y croit.
J'ai rien vu. J'ai pas lu
juste Dario. Très, très jolie chanson sur Istanbul. Hein,
vous savez pourquoi vous n'avez pas vu? Parce que vous étiez trop près de la feuille.
On est un partout.
Et à un moment, ça grossit trop les lunettes.
Attention, c'est à vous ça.
Christophe Willem.
Christophe Willem.
C'est quoi cette chanson?
Berlin.
Berlin m'appelle.
Ah. C'est ça, Willem. Demain, c'est ça?
Oui.
Demain. À vous, donc.
Désirless.
J'espère qu'on l'aura.
Non, ça, c'est facile, ça.
À Santiago de Cuba.
Jean Ferrat.
Oui.
Le carnaval nous entraîne. Quatre nuits sans perdre haleine. L'orgue orientale se déchaîne. Et moi qui danse comme un trône.
C'est partout. Donc Jean Ferrat, de partout, à vous. Alors ça, c'est une chanson qu'adore, je crois, Stéphane. Enfin, bon.
Et la mer se déchire.
Jacques Brel, ouais.
Infiniment varisé.
C'est une de vos chansons préférées.
Ah, oui. C'est à nous, hein. Bah, oui, non, mais en même temps, s'il faut qu'on...
On a le droit de répondre aux questions
qu'on nous pose.
On va l'annuler, et maintenant, c'est à vous.
Vous la connaissez.
On ne peut pas répondre à leur place.
Non, mais non. C'est pour eux, là.
Dans les pays.
C'est Catherine.
Sur d'autres continents.
Bravo.
3-2.
3-2
pour le reste du monde.
Ça c'est pour vous maintenant.
Axel Red.
Ouais. Avec Renaud.
Malatin Cabot. Inconnu,
deux anonymes. Elle était bien cette chanson.
Ouais, magnifique.
Elle était bien.
La violence éternelle.
3 partout.
3 partout, à vous.
Je suis si loin, si loin de chez
moi. Violet. Ouais. Mais je n'en veux. Et ça s'appelle Palermo.
Ouais,
Buenos Aires.
Non, Buenos Aires. C'est le dernier album là.
Ouais.
Argenté et fier. Autour de moi.
C'est une chanson.
Ouais, pas trop.
Ah si.
Ah si, l'album est super.
Mais l'album Benjamin est super.
Ouais.
Ah ça c'est plus classique, ouais, c'est pour vous.
Up to you.
New Liza Minnelli.
Oui, ouais, exact.
New York.
Quatre partout.
Quatre partout, à vous.
Sur la route de
Claude François. Claude François.
Oui, c'est Claude François.
Non.
Attendez.
Nous étions 20-30 peut-être.
Hugo Frey.
Chantons ta tue-tête, vive à Ouagadougou.
On n'a pas.
Non. Ça, c'était, je vous dis qui c'est.
Oui, qui a
c'était Alain Barrière.
Alain Barrière.
Ah, ouais. Ah, ça, c'est pour ça que je ne connaissais pas. Ouais.
Et celle-là. Celle-là, elle est magnifique, elle est pour vous.
Pour avoir la foi, il faut être chardonné, pour être mal chaussé, il faut être cordonné, pour séduire la foule, faut chanter la pêche au moule, pour pas payer la peau,
il faut être à Monaco.
Ben voilà, c'est bon. Ben, c'est l'équipe de Stéphane.
C'est l'équipe,
Stéphane,
c'est donc Sylvie. Sylvie qui part, ouais. Voilà, c'est jour dans les Alpes du Sud.
C'est
la vacance bleue qu'on remercie. Un séjour d'une semaine pour deux personnes en demi-pension au club Serre du Villard à Serre-Ponçon.
Ouais.
Voilà, et merci Patrice, merci à tous. Ce week-end...
Et pour ne pas payer d'impôts
il faut naître à Monaco.
Tiens, justement.
Il ne faut pas être à Monaco, il faut naître
à Monaco.
Ah, ce qui n'est pas notre cas.
Magnifique cette chanson.
Voilà. Yves Régnier est l'invité de Jade et d'Éric Dussard pour On fait, on refait, on défait la télé.
Prince Régnier.
13h30, samedi et dimanche. C'est pas Yves Régnier.
C'est pas le Prince Régnier, d'accord.
Il l'aurait préféré.
Les invités de la semaine. Lundi, Nicolas Bedos. Mardi, Olivier Marchal et Elsa Lunghini. Mercredi, Renaud Capuçon. Jeudi, nous serons au Salon de l'Agriculture avec les Bodins. Vendredi, nous serons avec le chanteur Grégoire. Kaboul Kitchen, c'est la troisième saison est sur Canal+.
Canal, ouais.
Oui.
Merci Stéphane.
Merci
Nebro,
à vous, merci
d'avoir été
Stéphane.
Avec
nous. C'était heureux d'être là.
C'est toujours une joie de vous accueillir. Et puis partagez. Ne manquez pas ce soir les Césars sur Canal+, mais aussi sur RTL. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente fin de semaine. RTL, il est midi et demi.
Vous écoutez RTL.